Intéressante parce que elle nous montre comment le théologien sait très bien qu'il n'a pas l'intuition de l'être premier, de la cause première, et donc il applique à la cause première toute l'analyse philosophique, métaphysique des causes, qui montre bien que l'analyse des causes se fait non seulement au niveau du devenir, en premier lieu, l'analyse des causes est au niveau du devenir, c'est-à-dire philosophie de la nature. C'est évident, là, en premier lieu, qu'on découvre le point de vue des causes, l'analyse des causes. Et saint Thomas s'en sert ici, non pas au niveau du devenir, mais au niveau de l'être. Puisqu'il ne peut y avoir aucun devenir en Dieu. Il ne peut y avoir que le point de vue de l'être. Ça me semble extrêmement intéressant ceci, bien comprendre. Parce que, Aristote l'avait dit du reste, les diverses causalités, il les prend aussi en métaphysique, en philosophie première. En philosophie première, il dit qu'il faut rechercher les diverses causes de ce qui est. Et que la philosophie première est science dans la mesure où on recherche les causes propres de ce qui est, en tant qu'être. Donc Aristote voit bien que la causalité n'est pas seulement au niveau du devenir, si elle est d'abord saisie au niveau du devenir, elle est dépassée au niveau propre de l'être, comme tel. Et saint Thomas s'en sert ici au point de vue proprement théologique. Vous voyez comme ça fait des difficultés pour la pensée moderne. Hein. Le traité de la création, vous savez bien, c'est un des traités qu'on accepte le plus difficilement aujourd'hui. J'ai assisté à des congrès théologiques, pas beaucoup, mais j'en ai assisté quand même quelques-uns. Et on disait ouvertement, il ne faut plus parler de la création en théologie. Pourquoi ? Parce que ça implique une métaphysique. C'est évident que si on fait une théologie au niveau anthropologique, il n'est pas question de la création. Et comme Rahner dit que le tournant de la théologie moderne, c'est de remplacer la métaphysique par l'anthropologie, c'est dit explicitement par Karl Rahner, on voit qu'à partir de là, on ne peut plus parler de la création. Ça, ce n'est pas le point de vue de l'Église, c'est le point de vue d'un théologien de l'Église qui a eu une grosse influence au moment du Concile, c'est sûr. Karl Rahner est sûrement celui qui a eu la plus grosse influence au point de vue du Concile. Ce n'est pas Père Congar, mais c'est Karl Rahner qui a eu la plus grosse influence. C'était sûrement le théologien le plus en vue. Et Karl Rahner dit ouvertement qu'il faut le changement d'une métaphysique en anthropologie. Et quand il oppose les deux, il ne veut pas dire une anthropologie enveloppée d'une métaphysique, mais une anthropologie tout court. Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler de la création. Ils en sont très conscients. On ne parle plus de la création. On ne peut plus parler de la création. On ne fait plus le traité de la création. Donc, quand on fait le traité de la création avec saint Thomas, il faut bien se dire qu'on ne peut le faire que s'il y a une métaphysique sous-jacente, parce que la métaphysique nous fait comprendre la causalité au niveau de l'être. Or, on ne peut appliquer la causalité à Dieu qu'au niveau de l'être, et pas au niveau du devenir. Alors, vous voyez que ceci provient de la grosse difficulté de Kant, et je crois que c'est cela, ce serait intéressant à voir, ça, pour ceux qui se spécialisent un peu dans la pensée de Kant. Ce serait intéressant, en regardant l'article, non pas du père Euffé, mais du professeur Euffé, en montrant que, de fait, il y a un article intéressant, et il montre bien sa pensée, que, de fait, Kant a eu raison, il le dit explicitement, qu'il est beaucoup plus chrétien de prendre la position de Kant que prendre la position d'Aristote. Je voudrais répondre à cet article. C'est une position qui est beaucoup plus chrétienne. C'est très subtil. C'est très subtil. Parce que et c'est un peu terrible. Parce que alors ça va, si vous voulez, dans une perspective qui est anti-catholique et qui est protestante. Autrement dit, ça montrerait que le protestantisme a eu raison contre en face de la tradition catholique. Et ça demanderait une réponse. Ce serait intéressant de répondre à cet article. Maintenant, il est publié. Une fois qu'un article est publié, on peut y répondre. Alors, il faudrait essayer de voir ce que ça signifie exactement, de dire que c'est plus profondément chrétien de vouloir rejoindre Dieu par le point de vue moral que de le rejoindre par le point de vue métaphysique. Alors, je crois que c'est très intéressant, ça, à l'étudier, parce que ça nous obligerait de voir pourquoi quand a-t-il refusé la métaphysique ? Pourquoi Kant a-t-il rejeté la métaphysique ? Bon, il l'a rejeté, je crois, en fonction de sa notion de cause. Et que sa notion de cause provient de la science moderne. Que si on ramène la cause à la loi, il ne peut plus y avoir de métaphysique. Plus y avoir que penser l'être. Et pour Kant, il n'y avait même pas ça. Sauf que Heidegger va un tout petit peu plus que Kant. Il redresse un peu le gouvernail, mais pas jusqu'au bout. Il le redresse quand même un peu. Parce que je crois que pour Kant, on ne pouvait même pas penser l'être. Et malgré que Kant avait peut-être raison de dire qu'on ne peut pas penser l'être tant qu'on n'a pas redécouvert la causalité au niveau de l'être. Parce que je crois qu'on ne peut pas penser l'être intuitivement. On peut penser l'être que métaphysiquement, en philosophie première, c'est-à-dire au niveau scientifique, au sens aristotélicien, c'est-à-dire au niveau de la découverte de la cause propre de l'être. Autrement, on affirme l'existence d'une réalité, mais affirmer l'existence d'une réalité, le jugement d'existence, c'est pas encore penser l'être. Alors, vous voyez, il y a les trois choses qu'il faudrait réfléchir, parce que ça me semble très important, et c'est toute la signification de cette question. Si on veut comprendre cette question, il faut aller jusque-là. Et si on veut comprendre pourquoi il y a une réaction telle par rapport à cette question de saint Thomas, c'est à cause de ça. Alors ça c'est très important parce que ça fait voir toute la position différente de saint Thomas et ceux qui viennent après Kant. Alors, il y a ce fait. Hein. Jugement d'existence. Ceci est. Je ne peux pas dire que le jugement d'existence est penser l'être. C'est affirmer l'exister. C'est pas penser l'être. Que dans le jugement d'existence, il y ait une certaine connaissance de l'être. Oui, d'accord. Mais je ne peux penser l'être que lorsque j'ai découvert les causes propres de ce qui est. Donc, lorsque j'ai compris que la cause pouvait être au niveau de l'être. Au niveau que ceci est. Donc, dans la mesure où j'accepte une philosophie première, puisque la philosophie première existe au moment où j'ai découvert les causes propres de ce qui est. Tant que je n'ai pas découvert les causes propres de ce qui est, il n'y a pas de métaphysique. Alors, on va essayer de remplacer ces deux aspects-là par le fait de penser l'être, ou par l'intuition de l'être. Je crois que ça revient au problème. L'intuition de l'être, penser l'être, c'est la même chose. La différence, c'est que pour Maritain, l'intuition de l'être implique un jugement d'existence, tandis que pour Heidegger, penser l'être, c'est uniquement le dévoilement de l'être. Alors le dévoilement de l'être, c'est une intuition. On dévoile l'être. L'être apparaît subitement dans tout ça, dans toute sa force. Alors c'est donc une intuition qui est donnée au niveau de l'être. Et ceci, vous voyez, c'est pour remplacer le point de vue des causes. Je peux très bien parler de l'intuition de l'être et penser l'être, et plus du tout parler des causes. Donc, je ne réponds pas à Kant. Je suis dans une perspective de celui qui décrit. On décrit l'intuition, on décrit penser l'être, mais on n'analyse pas ce qui est. Or, le propre de ça, et ceci provient alors de ça, on peut dire, ça ce sont des réponses après Kant. Pourquoi Kant n'arrive plus à la métaphysique, ni l'existence de la métaphysique. C'est parce que, pour lui, la cause, comme telle, égale l'amour. Donc elle est toujours au niveau du devenir. Si elle est toujours au niveau du devenir, je ne peux pas l'appliquer à Dieu. Alors, on comprend la position de ceux qui disent, la position de Kant est plus proche du christianisme que la position métaphysique d'Aristote, parce que cette position de Kant, qui nie la métaphysique, oblige de revenir à la morale. C'est ce que fait Kant. Il dit que c'est par la morale qu'on peut, d'une certaine manière, vous savez bien cette preuve qu'il donne de l'existence de Dieu par le point de vue de la morale. Par la morale, on peut, d'une certaine manière, rejoindre Dieu. Donc, la morale, c'est l'homme. C'est le Dasein, penser l'être. Hein, c'est le Dasein de Heidegger. Alors, penser, c'est par le point de vue de l'homme qu'on peut rejoindre Dieu. Alors, on dira oui. Parce que par l'homme, je touche l'image, tandis qu'au niveau de l'univers physique, je ne suis qu'au niveau des vestiges. Donc, c'est plus chrétien de regarder la preuve de l'essence de Dieu par l'image que par les vestiges. Et comme c'est subtil, ça. Et c'est vrai, si je regarde le point de vue de l'image, à la différence des vestiges, je dirais que c'est plus parfait. C'est plus chrétien d'atteindre Dieu par l'image que par les vestiges. Vous voyez l'erreur sous-jacente. C'est qu'à la place de regarder le point de vue de l'être, on regarde les diverses modalités. On a l'univers d'une part et l'homme d'autre part. Alors on oppose l'univers et l'homme. Et en opposant l'univers et l'homme, ici on a le monde matériel, la matière. Et ici, on a la pensée, cogito Descartes. On a la substance pensante et on a la substance quantitative. Il est évident que si je divise de cette manière, c'est plus parfait d'atteindre Dieu par la substance pensante, c'est-à-dire par le cogito, que d'atteindre par l'univers. Atteindre Dieu par l'univers, c'est beaucoup moins parfait, ça, c'est les païens. Tandis que nous avons une possibilité de comprendre, puisque la révélation nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, donc rejoindre Dieu par le cogito, c'est beaucoup plus parfait. Vous voyez, la subtilité de la réponse, de l'invention de cela. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est qu'on ne peut rejoindre Dieu ni par l'univers, ni par l'homme. Et on ne peut le rejoindre, au point de vue philosophique, que par l'être. Parce que si je veux le rejoindre par l'homme sans passer par l'être, je le rejoins d'une façon immanente. Et donc je ne rejoins pas Dieu. Vous voyez ? Ici, c'est le danger de l'immanence. Et ici, c'est par l'univers et la matière, ce serait le danger aussi de l'immanence. Deux immanences différentes. Et par l'être, seul, on saisit la transcendance. Alors, voyez que la confusion sous-jacente à cela, c'est que on prétend qu'avec la révélation, l'immanence est avant la transcendance. Dans l'ordre surnaturel, c'est vrai que l'immanence est avant la transcendance. Mais l'ordre surnaturel ne supprime pas l'ordre naturel. Et dans l'ordre naturel, c'est-à-dire dans l'ordre de la pensée, je n'atteins Dieu d'abord que par la transcendance. Dieu est d'abord l'autre, au sens très fort. Et c'est dans la mesure où je saisis Dieu comme l'autre que je peux le saisir dans son immanence. Oui. La création regarde Dieu d'abord dans sa transcendance. Et c'est parce que je vais regarder d'abord dans sa transcendance que je peux dire qu'il est parfaitement immanent. Tandis que dans l'ordre surnaturel, je saisis Dieu d'abord dans l'immanence. C'est vrai, il est le Père. Donc c'est pas lui de la vie qui est premier. C'est la vie surnaturelle. Alors dès que je suis au niveau de la vie surnaturelle, l'immanence est première. Et dans cette immanence, je découvre la transcendance. Ceci, c'est le propre de la foi. La foi me donne une connaissance de Dieu à travers l'immanence. Et dans cette immanence, je découvre la transcendance. Alors, c'est très curieux que, de fait, on voit très bien l'erreur de Kant, l'erreur de Hegel et l'erreur de ceux qui continuent à être kantiens, c'est d'oublier la distinction de la connaissance naturelle métaphysique de la philosophie première et la foi. Si je ne fais pas la distinction de la foi et de la connaissance philosophique, je dirais que j'atteins plus immédiatement Dieu par l'homme, par le cogito, que par l'univers. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire ici, parce que ça me semble important, parce que ça me semble être l'erreur de Kant. C'est un manque de distinction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et c'est d'appliquer la connaissance naturelle, ce qui n'est vrai que la connaissance de foi. Autrement dit, je reprends d'une autre manière pour que vous saisissiez bien. Dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre de la foi, qu'est-ce qui est premier ? C'est la révélation, c'est donc Dieu qui me parle. Et c'est donc l'immanence. Et à travers l'immanence, je saisis la transcendance de Dieu. Dans l'ordre naturel, dans l'ordre de la connaissance philosophique, qu'est-ce qui est premier ? C'est la découverte de la transcendance de Dieu. Je ne découvre pas Dieu par l'immanence. Mais c'est toute l'erreur de Picant, c'est l'erreur de Blondel, c'est l'erreur de tout cela. Il voudrait découvrir Dieu par l'immanence. Et vous comprenez que c'est un immense avantage, parce que si vous pouvez découvrir Dieu par l'immanence, vous n'avez plus besoin de la causalité. Ce qui ennuie le plus tous les philosophes d'aujourd'hui et tous les théologiens, c'est de dire qu'on ne peut découvrir Dieu que par la causalité. Or, de fait, tous, presque tous, depuis Kant et même avant Kant, ne saisissent la causalité qu'au niveau de la loi. Alors à ce moment-là, ils sont bloqués. Vous voyez, prétendre découvrir en premier lieu la transcendance, ça ne peut se faire que par la causalité. Seule la causalité me permet de découvrir la transcendance. Tandis que si je peux découvrir Dieu par l'immanence, je n'ai plus besoin de la causalité. Je suis Dieu par l'intériorité. Évidemment, il y a un primat de l'intériorité, c'est merveilleux. Et je comprends que c'est très agréable de saisir Dieu par l'immanence. Je n'ai qu'à réfléchir au plus intime de moi-même et puis je découvre la présence de Dieu. C'est tout l'ontologisme. Et tout l'ontologie, c'est cette présence immanente de Dieu en moi. Et je n'ai qu'à réfléchir sur le plus intime de moi-même, je découvre Dieu. Et découvrir Dieu de cette manière, ce n'est pas Dieu. C'est approfondir mon moi intérieur au niveau de l'intentionnalité, au niveau du cogito ou au niveau de l'amour, mais ce n'est pas Dieu. Je reste dans l'immanence. Mais l'immanence ne me fait pas découvrir l'être, mais me fait découvrir l'intentionnalité. L'immanence ne me permet pas de sortir de l'intentionnalité. Or, il faut découvrir objectivement l'autre pour pouvoir découvrir Dieu. Or, pour découvrir objectivement l'autre comme celui dont je dépends, ceci implique le point de vue de la causalité. Donc, je crois que c'est la première remarque qu'il faut faire à cet article de saint Thomas. Pour bien comprendre que cet article, cette question de saint Thomas, question 44, est une question qui nous oblige à sortir complètement de Kant. Alors, si vous acceptez Kant, vous refusez la question 44. Là, il y a une opposition, mais farouche entre les deux. Vous ne pouvez pas accepter les deux en même temps. Parce que la position de saint Thomas est une position qui est dans la perspective de la métaphysique. Bon, alors, une fois qu'on a compris ça, nous pouvons essayer maintenant d'organiser cette question et de comprendre comment saint Thomas l'a organisée. Donc, pour saint Thomas, la sagesse philosophique me donne une notion de la causalité qui n'est plus au niveau du devenir, mais au niveau de l'être. Pour saint Thomas, la sagesse philosophique peut atteindre Dieu. Et la sagesse philosophique peut découvrir la dépendance radicale qui existe entre Dieu et les autres réalités. Il ne faut pas l'oublier, ceci est sous-jacent à toute cette question. Alors, en théologie, il va se servir de cette sagesse philosophique pour organiser davantage au niveau proprement théologique, on est en théologie ici, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas en philosophie ici. Si je parlais de la création en philosophie, je ne parlerais pas tout à fait de la même façon. Mais on est en théologie. Alors, en théologie, je peux donc, la foi me disant que Dieu est le créateur, la foi me disant que toutes les réalités qui sont autres que Dieu sont des créatures, j'essaie de comprendre en théologie surnaturelle, en théologie chrétienne, j'essaie de comprendre la transcendance de Dieu comme créateur. Et j'essaie de souligner ces diverses transcendances. Première transcendance, c'est la transcendance du côté de la causalité efficiente. Parce que cette transcendance me permet tout de suite de mettre en relation l'être premier dans sa simplicité et les êtres participés dans leur complexité. Je crois bien que c'est la première transcendance. On peut réfléchir. Vous verrez bien que c'est la première transcendance. Vous voyez ça. Pour faire cela, il faut déjà avoir découvert qu'il puisse y avoir une causalité efficiente au niveau de l'être. Saint Thomas le prouve pour ça. Il le dit tout simplement. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas du tout de soi. Puisque nous avions vu en métaphysique qu'il n'y a pas de causalité efficiente dans la recherche de l'être. Dans la recherche de l'être, qu'est-ce que nous avons découvert comme causalité? Nous avons découvert une causalité dans l'ordre proprement de la forme et de la fin. Aristote le dit textuellement, ça. La causalité au niveau de l'être ne peut exister qu'au niveau de la forme et de la fin. Donc il semblerait que saint Thomas doive commencer tout de suite par le point de vue de la fin et le point de vue de la forme pour en impliquer ensuite le point de vue de l'efficience. Or il ne le fait pas. Ça prouve que c'est déjà fait. Oui, ce qui prouve donc que sous-jacent à cette question, il y a déjà une théologie naturelle qui est faite. Et c'est ça qui me semble intéressant de voir, parce que ça me fait comprendre qu'on ne peut entrer dans la pensée de saint Thomas que si on a une philosophie première qui va jusqu'à une théologie naturelle. Autrement, c'est impossible. Alors, si vous supprimez ça, vous supprimez du même coup toute la théologie de saint Thomas. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui est en train de se faire. Alors, il faut bien saisir que Aristote saisit donc la cause au niveau de l'être, au niveau de la forme, au niveau de la femme. Or, saint Thomas prend tout de suite, première transcendance, la cause efficiente. Il prend cette première transcendance et on comprend que c'est celle-là qu'il prend, parce que de fait, cette causalité efficiente me permet de comprendre comment toutes les réalités du point de vue de l'être sont dépendantes radicalement à l'égard de Dieu. C'est la causalité efficiente qui montre le mieux la dépendance radicale, fondamentale. La dépendance du côté de la finalité n'est jamais première. Et c'est pour ça qu'il commence par l'efficience. Si j'étais dans une anthropologie, je commencerais par la dépendance au point de vue finalité. Parce que c'est celle qui est le plus proche de l'intentionnalité. Ici, je me place du côté de l'être, et c'est donc la causalité efficiente qui me montre le mieux la transcendance. Mais ceci n'est possible que parce qu'on a déjà prouvé, on a déjà montré en philosophie, saint Thomas ne le dit pas, mais autrement c'est impossible de le comprendre. On a déjà prouvé en philosophie que la causalité efficiente pouvait s'appliquer à l'être. Une fois qu'on a déjà prouvé, une fois qu'on a prouvé ça, alors on peut tout de suite utiliser la causalité efficiente au point de vue de la création. Alors, premier article qui montre la transcendance de l'être premier par rapport à toutes les autres par le point de vue de la causalité efficiente. Et ceci est montré par le point de vue de la participation. Alors, ce qui est aussi très intéressant à voir, c'est par la participation. Alors, ici, il y a quelques aspects très intéressants à voir. C'est quand saint Thomas montre les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Question 2. Saint Thomas ne parle jamais de la participation. Et quand il parle ici de la création, c'est-à-dire la dépendance de toutes les réalités à l'égard de l'être premier, il parle de la participation. Donc il faut mettre en parallèle cette question 44 avec la question 2. Pour qu'on comprenne mieux pourquoi saint Thomas ne parle pas de la participation lorsqu'il s'agit de la découverte de l'être premier, et qu'il parle de la participation quand il s'agit au contraire de la dépendance de l'être premier. On se sert de la participation pour montrer la dépendance à l'égard de l'être premier, et on ne se sert pas de la participation pour découvrir. Alors pourquoi ? Il s'agit de se poser la question. C'est un fait. Je découvre ça dans la pensée de saint Thomas. Alors pourquoi ? Parce que vous savez que beaucoup, à la suite du Père Sertilan, du reste, disent que la participation est présente dans les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, parce qu'on a une certaine vision néoplatonicienne, alors que je crois que saint Thomas ne se sert absolument pas de la participation dans la question de Dieu. Le mot n'y est pas, donc si on l'ajoute, ça prouverait que saint Thomas l'a oublié, alors que dans la question 44, il l'emploie. Si saint Thomas ne l'employait pas dans la question 44, ce serait beaucoup plus gênant du fait qu'il l'emploie dans la question 44. Alors, on peut se poser la question, pourquoi d'un côté il l'emploie, pourquoi de l'autre côté il l'emploie. Je crois qu'on doit dire ceci, c'est que la participation, étant donné qu'elle est un pose, un comment, je vous l'ai déjà dit, c'est Damasius qui nous dit ça. Donc c'est un néoplatonicien, et je prends exprès l'autorité d'un néoplatonicien, puisque les néoplatoniciens sont les spécialistes de la participation. Ce n'est pas Aristote qui est spécialiste de la participation. Puisqu'Aristote, dans sa métaphysique, dit la participation, ça ne signifie rien. Il dit ça. Il ne faut pas l'oublier. Et il dit ça en face de Platon. La participation, ça ne signifie rien. Il emploie le mot participation. Il dit ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien au niveau de la recherche des causes. Et ça signifie quelque chose au niveau de la manière d'être. Donc la participation ne signifie rien au niveau de l'analyse des causes, c'est très vrai.
Alors, si on est dans l'ordre de la remontée, et dans l'ordre de la remontée, on peut découvrir l'existence de Dieu que par la causalité, la perception ne peut pas être employée. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la création, il ne s'agit pas de découvrir l'être premier. Il s'agit au contraire de montrer la dépendance de toutes les réalités par rapport à Dieu. C'est donc une relation de dépendance. Or, une relation de dépendance dans l'ordre de l'être se manifeste par la participation. Vous n'êtes plus au niveau des causes, vous êtes au niveau de la relation. On ne découvre qu'une cause hein, dans ces articles sur la cause, sur la création. Mais on essaie de découvrir une relation existentielle, une relation réelle dans l'ordre de l'être. Or, une relation dans l'ordre de l'être se manifeste par deux états, deux manières d'être. Une manière d'être dépendante, une manière d'être autonome. Alors, à ce moment-là, le point de vue de la participation joue. Et alors, on comprend très bien comment le métaxu de cet article 2, de cet article 1er, ce soit la participation. Vous voyez, c'est pour ça que cet article 1er de la question 44 est très important pour comprendre mieux la rigueur de la question 2. C'est très subtil hein, ce que je vous dis là, mais c'est très important. C'est très important parce que ça vous montre toute la différence entre la recherche de la participation et la recherche de la causalité. La participation, c'est très important dans l'ordre de la manière d'être. Alors, la relation est au niveau des manières d'être. Ça, on saisit tout de suite au niveau proprement amitié. C'est la manière d'être. Au niveau de l'amitié, vous n'allez pas dire « mon ami subsiste, c'est suffisant ». Non, c'est pas ça. Ça, c'est de l'ordre métaphysique. C'est la manière d'être. Il est particulièrement glacial aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, manière d'être. Donc, c'est du côté de la manière d'être. Et donc, c'est l'ordre de la participation. C'est très curieux, ça. Tandis que la causalité, c'est autre chose. La métaphysique est au-delà de la participation. Et c'est pour ça qu'Aristote dit, de façon très juste, ça ne sert à rien. En philosophie première, ça ne sert à rien, parce qu'on cherche les causes propres de ce qui est. Tandis qu'au contraire, il s'en sert. Ah, saint Thomas s'en sert ici. Et ce n'est pas parce qu'il est néoplatonicien. S'il était néoplatonicien, il s'en servirait à la question 2. Alors, il ne s'en sert pas à la question 2, il s'en sert à la question 44. Ça prouve qu'il sait très bien ce que c'est que la participation. Bon, une fois qu'on a découvert que Dieu est cause efficiente, on veut montrer que cette cause efficiente va jusqu'au bout, qu'elle n'atteint pas seulement la forme, mais qu'elle atteint l'être. C'est une cause efficiente radicale et fondamentale. Et c'est pour ça qu'on montre que la matière elle-même est causée. La causalité matérielle ne peut pas entrer en Dieu. La causalité matérielle demeure limitée au devenir. Ce que je vous avais dit déjà plus d'une fois en métaphysique, que la distinction de la cause formelle et de la cause matérielle, c'est une distinction propre du devenir, de ce qui est mu. Au niveau de l'être, il n'y a pas de distinction entre eux. Cause matérielle et cause formelle, la distinction entre la substance et les accidents. Et bien, nous retrouvons ça ici. Vous voyez, la cause, la matière, comme telle, n'entre en théologie que sous l'aspect de l'effet. La matière ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu. Sauf dans le mystère d'incarnation. Alors là, c'est autre chose. C'est à cause du mystère de l'incarnation. Alors à ce moment-là, dans le corps du Christ, la matière est Dieu. Ce que le père Teilhard dit en oubliant de préciser que c'est à cause du mystère d'incarnation. Quand il dit que la matière est divine, la libre de la matière, c'est vrai pour l'incarnation, mais c'est pas vrai au niveau naturel. Au niveau naturel, la matière n'est pas divine. La matière est un effet de la cause première, un effet du créateur. La matière est créée par Dieu, et elle ne peut être que créée. Elle ne peut être que créée. Et elle est d'abord créée, et elle peut être ensuite assumée par amour dans l'ordre surnaturel. Et dans l'ordre surnaturel, la matière devient divine. Mais voyez bien, elle devient divine. Elle n'est pas divine. Elle devient divine par le corps du Christ. Par le corps du Christ, la matière devient divine. Elle n'est pas divine. Oui, c'est la phrase de Saint Jean qui est si forte quand il dit que le Verbe devient chair, egeleto, sarx, egeleto. Le Verbe devient chair, il n'est pas chair. Et donc la matière est d'abord un effet. Et parce que la matière est d'abord un effet, la matière peut être ensuite assumée. Mais il faut d'abord qu'elle soit effet. Elle n'est pas au niveau de Dieu. Tandis que l'efficience n'implique aucune imperfection. Et donc l'efficience peut s'appliquer à Dieu. Alors c'est très beau de voir cette espèce vous voyez, cet article premier, cet article second, comme c'est fort de montrer que l'une des causalités, la causalité efficiente, pénètre en Dieu, et la causalité matérielle ne pénètre pas en Dieu, ne peut pas pénétrer en Dieu, elle reste infra. Elle ne peut être qu'un effet. Tandis que la causalité efficiente peut pénétrer en Dieu parce qu'elle n'implique aucune imperfection. Mais pour ça, il fallait perfectionner, purifier la causalité efficiente pour comprendre la causalité efficiente au niveau propre de l'être. Vous avez ensuite, pour trouver l'organisation, on comprend très bien qu'il faut regarder d'abord la transcendance. Et immédiatement après que j'ai regardé la transcendance, je vois que cette transcendance est telle qu'elle relativise fondamentalement la matière. La matière est un principe, mais un principe d'un caractère très particulier, que ce principe ne peut être que créé. Tandis que la cause efficiente est un principe qui peut être divin. C'est toujours intéressant de voir les principes qui sont essentiellement créés et qui donc, au point de vue théologique, sont des principes seconds. Et c'est pour ça que saint Thomas nous dira toujours que la matière est concrète. Elle n'est pas un principe absolu. Je ne peux pas faire de la matière un principe absolu. Et là, le jugement différent du théologien et du philosophe. Marquez que le philosophe pourrait dire ça dans une vision de sagesse. Alors, disons, la différence entre l'analyse philosophique, on relativise la matière. Et la matière est déjà relativisée en métaphysique, parce qu'on montre que la matière n'est pas un principe propre de l'être. Si la matière n'est pas un principe propre de l'être, elle est nécessairement concrète. Elle ne pénètre pas dans le domaine de l'être comme une structure de l'être. Vous avez ensuite la manière dont on va comprendre le point de vue de la cause formelle. Première transcendance, deuxième transcendance, la cause exemplaire. Et saint Thomas tout de suite regarde le point de vue de la cause exemplaire. Pourquoi ? Quelle différence y a-t-il entre la cause formelle et la cause exemplaire ? C'est que la cause exemplaire implique tout de suite une transcendance. La cause formelle, vous savez bien, parmi les causes, quand on fait l'analyse des causes, on dit qu'il y a deux causes extrinsèques, la cause efficiente et la cause finale. Et on peut ajouter qu'il y a une troisième cause qui peut être extrinsèque, la cause exemplaire. Mais au niveau philosophique, la cause exemplaire est au niveau de l'intentionnalité. Où est l'exemple le plus parfait de la cause exemplaire au plan philosophique ? C'est la cause exemplaire de l'idée, l'idéal de l'artiste. L'artiste, quand il veut réaliser quelque chose, il pense ce qu'il veut réaliser. Il pense ce qu'il veut réaliser dans son idéal. Et c'est à partir de cet idéal qu'il veut réaliser quelque chose. Donc la causalité exemplaire n'est pas premièrement au niveau de l'être. Elle est premièrement au niveau de l'intentionnalité. Mais on peut regarder que la causalité exemplaire peut être transposée au niveau proprement de l'être. Et au fond, c'est ce que va faire saint Thomas dans cet article 3. Il va montrer que la causalité exemplaire peut exister au niveau de l'être. C'est peut-être l'article le plus subtil. On l'a tous senti du reste. Hein. C'est l'article le plus subtil. Transposer les idéas en Dieu. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut dire qu'on a une métaphysique des idées. Il n'y a qu'en Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut avoir une métaphysique des idées. Ça ne le gêne pas. Tandis que pour nous, on n'a pas une métaphysique des idées. C'est impossible. Vous ne pouvez pas faire une métaphysique à partir de vos idéaux. Vous feriez une métaphysique artistique. Et alors, ça n'irait pas du tout. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous domineriez sur l'être et ça n'irait pas. Alors, on ne peut pas. Il n'y a qu'en Dieu où il peut y avoir une causalité exemplaire qui, normalement, est au niveau intentionnel, qui soit au niveau de l'être. C'est très très fort ça, et c'est très intéressant, mais c'est très subtil. C'est tout le point de vue, voyez, de la sagesse. Et c'est par le métaxu de la sagesse que je peux comprendre que l'intentionnalité va retrouver le point de vue de l'être. C'est qu'en Dieu, sagesse et être ne font qu'un. En Dieu, esprit et être ne font qu'un. L'idéal est au niveau de l'esprit, au niveau de la sagesse. Or, comme en Dieu, esprit et être ne font qu'un, les idéaux peuvent exister en Dieu et peuvent être vraiment cause exemplaire de la création. Donc, cause exemplaire au niveau proprement de l'être. Alors que normalement, la cause exemplaire n'est pas cause d'être, elle est cause uniquement de la transmission de la forme. Quand vous avez un petit projet en tête, hein. Votre petit projet en tête n'est pas cause réelle de la chose, mais c'est la volonté de pouvoir réaliser quelque chose. Alors, c'est uniquement au niveau de la forme. Tandis qu'en Dieu, l'idéa peut être au niveau de l'être. Alors, je terminerai la fois prochaine, c'est-à-dire montrer comment la finalité va être transposée en dernier lieu, dans le troisième transcendant. La finalité. Les trois transcendances qui sont en Dieu et qui sont affirmées en Dieu dans cette question.